Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Iran. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 19 mai prochain, Hassan Rouhani est candidat à sa réélection à la tête du pays. Ses deux principaux adversaires sont le maire de Téhéran, Mohammad Ghalibaf, et l'ancien procureur général, Ebrahim Raisi. Regard sur le bilan de la présidence Rouhani et les enjeux du scrutin présidentiel. L'élection iranienne suit de quelques mois l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et la question se pose du climat à venir dans la relation entre Téhéran et Washington. Nos invités, Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7, chercheur associé au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont L'Iran, un mouvement sans révolution aux éditions Michelon. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de La guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, co-éditeur de la revue internationale des études du développement, dont le dernier numéro est consacré à l'économie politique de la République islamique d'Iran. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelles sont les chances du président sortant dans cette élection? Qui sont ses adversaires dans cette course présidentielle? Que souhaite le guide suprême? Est-ce qu'il faut voir en particulier dans les critiques formulées par le guide suprême à l'encontre de Rouhani une préférence pour un candidat conservateur? Et finalement, cette élection est-elle une élection sur laquelle se joue un possible retour en arrière, Azadeh Kian?
Justement, il semblerait que le guide s'annonce de plus en plus pour M. Raisi, le candidat en turbané qui a été nommé par le guide pour gérer le très riche sanctuaire d'Imam Reza, la fondation Astana Roads, et dont le nom est souvent aussi cité pour remplacer le guide qu'on pense être très gravement malade. À cela s'ajoute M. Ghalibaf, qui lui aussi est conservateur, mais dernièrement moins soutenu que M. Raisi par des fronts principaux conservateurs. Donc, c'est effectivement... Les gardiens de la révolution ont bien montré leur soutien pour M. Raisi. Les principales fondations conservatrices soutiennent Raisi. Et récemment, M. Rouhani a été contraint de répondre aux attaques en règle contre le bilan de son gouvernement à 3 reprises au moins. Et finalement, a essayé d'obtenir de nouveau le soutien notamment des classes moyennes urbaines, en particulier des jeunes, en ce qui concerne la création d'emplois, mais aussi les libertés individuelles et collectives. Et en cela, il a beaucoup attaqué M. Raisi. Pourquoi? Parce que Raisi est l'un des commanditaires de grands exécutions sommaires de 1988 contre les
prisonniers politiques.
Il y en a qui parlent de 4000 prisonniers politiques qui auraient été effectivement exécutés par une équipe dont M. Raisi faisait partie à l'époque en 1988. Et il a toujours continué parce qu'il a toujours servi dans le judiciaire en tant qu'ultra-conservateur. Il a toujours continué à exécuter des prisonniers. Donc, Rouhani a décidé effectivement d'attaquer ses détracteurs en dévoilant qui ils sont et quels sont en fait les risques si jamais Raisi ou Ghalibaf étaient élus président de la République. Alors, l'inconnu en ce qui concerne Rouhani, c'est le taux de participation. Il faut être plus clair qu'il y a beaucoup d'électeurs de Rouhani qui sont finalement assez mécontents du bilan du président, mais aujourd'hui ils ont en face d'eux deux détracteurs principaux qui sont ultra conservateurs. Et donc la grande question est si Rouhani parviendra à mobiliser de nouveau ses électeurs potentiels, auquel cas il sera élu. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de nouveau une fraude massive organisée contre Rouhani.
Alors, la question qui se pose, si on va plus loin de ce qu'a dit Azadeh Kian, Pierre Azou, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui du rapport de force, finalement, entre le clan conservateur et les modérés? Finalement, est-ce que Ebrahim Raisi a des chances?
Je crois que les trois candidats ont des chances, hein, c'est-à-dire à la fois Rouhani, Raisi et Ghalibaf. L'impression que j'ai, c'est que le régime et les gens autour du guide sont prudents et veulent surtout pouvoir réagir à un contexte international extrêmement tendu. Mmh. On le voit bien avec l'annonce de futures sanctions américaines et puis le jeu qui reste très très tendu avec l'Arabie Saoudite, avec Israël et même avec la Turquie en ce moment. Donc je crois que le guide Ali Khamenei veut se ménager toutes les options possibles. Donc l'impression que j'ai, c'est qu'il y aura un deuxième tour, c'est-à-dire que personne ne gagnera au premier. Qu'au premier tour, j'ai l'impression malgré tout que Rouhani arrivera en tête et qu'il sera, par contre, il sera talonné par ces deux challengers ultra-conservateurs qui représentent deux tendances très différentes. C'est-à-dire que Raisi, c'est vraiment l'idéologie religieuse classique, la figure du guide, le clergé, etc. Alors que Khalibaf, c'est un peu le militarisme nationaliste. Et on voit bien qu'en Iran, il y a ces deux tendances en ce moment qui s'opposent. C'est soit le nationalisme, soit l'islamisme. Et l'impression que j'ai, c'est qu'en fonction du contexte, au deuxième tour, le guide fera émerger soit l'un, soit l'autre. Et là, franchement, je crois qu'on peut pas dire, parce que ça dépendra vraiment du contexte. Et bien entendu, comme le disait Azadeh Kian, du choix du peuple qui, in fine, malgré tout, reste l'inconnu.
Alors, traditionnellement, en Iran, je parle évidemment sous votre contrôle, le président, enfin, les présidents parviennent à faire deux mandats. C'est ce qui s'est produit ces dernières années. Question, est-ce que Rouhani pourrait perdre?
Écoutez, Azadeh Kian. Rouhani, à mon avis, non. Et d'ailleurs, les sondages effectués récemment en Iran montrent que il aura, selon les sondages, 41% des votes contre 20% pour Khalibaf ou encore 22% pour Raisi. Donc, on constate effectivement que malgré des mécontentements et des désillusions, il est quand même le candidat le plus populaire à l'heure actuelle. À cela s'ajoute son vice-président, Monsieur Jahangiri, qui lui aussi est un peu populaire, mais qui va se retirer au profit de Rouhani. Donc, je pense que les Iraniens, et notamment la jeune génération, est de plus en plus rationnelle. Je veux dire qu'ils savent très bien quels sont les obstacles à la fois internationaux et intérieurs hein, quant à l'application du programme de Rouhani. Mais les gens constatent aussi, par exemple, quand même une certaine amélioration en ce qui concerne le contrôle de taux d'inflation, en ce qui concerne les investissements étrangers, la création d'emplois pour les femmes. Ça, ce sont quand même des réalités de ces 4 années de mandat de Rouhani. À cela s'ajoutent quand même les sorties de Monsieur Rouhani quant au respect pour les libertés individuelles et collectives qui sont très chères pour la jeune génération aussi, on le sait notamment dans des grandes villes. Donc effectivement, il a toutes ses chances, mais encore une fois, pourquoi par exemple le guide a fait ses déclarations contre Rouhani en règle et il ne fait aucune déclaration ni contre Khalibaf ni contre Raisi. Donc finalement, il montre sa préférence pour les deux autres candidats contre Rouhani. Et donc, étant donné que en Iran, comme dans beaucoup d'autres pays de ce type, les fraudes ne sont jamais exclues, ce qui inquiète, c'est aussi une fraude de nouveau électorale. Parce que je suis d'accord avec Perazou pour dire que il est quand même fort improbable que Rouhani puisse se faire élire haut la main dès le premier tour. Hein, et donc après, chaque voix va compter. Et donc, c'est aussi ça, l'un des inconnus de l'élection en Iran, contrairement à pas mal d'autres pays où les candidats se font élire avec 98% des votes, quoi, parfois.
Donc, une élection, d'une certaine manière, sous tension. Hein. C'est sous ce tension. Que j'entends de ce que vous dites, oui. Azadeh Kian. On reviendra sur les débats sociétaux qui ont cours aujourd'hui en Iran, parce que ça me paraît intéressant. Mais Thierry Coville, de quel bilan Hassan Rouhani peut-il se targuer aujourd'hui dans ce pays, on peut le rappeler, 80 millions d'habitants, deuxième économie du Moyen-Orient après l'Arabie Saoudite, où près d'un tiers des moins de 30 ans est au chômage. L'économie iranienne n'est plus au bord du précipice, mais des experts se demandent aujourd'hui si finalement Rouhani est parvenu suffisamment à redresser la barre.
Oui, alors l'économie est pour l'instant le sujet principal en fait des débats concernant les élections. Il y a eu déjà 2 débats télévisés et il faut dire que l'économie préoccupe tous les candidats. Le débat est assez simple. Hein. Rouhani explique que du fait de l'accord sur le nucléaire, les sanctions ont été levées. Et comme les sanctions ont été levées, la situation économique s'améliore.
Sanctions levées, mais pas toutes, on peut le rappeler.
Oui, les sanctions liées à la question nucléaire ont été levées. Et notamment, des éléments importants pour l'économie iranienne, c'est que maintenant l'Iran peut exporter l'ensemble de son pétrole. Hein, avant, ils étaient limités à 50% de leurs exportations pétrolières. Et maintenant, c'est encore compliqué, parce que les transferts d'argent, on va dire, entre l'Iran et l'Europe sont possibles. Alors effectivement, restent les sanctions américaines. Et on peut dire que d'une certaine façon, les Américains jouent sur ces élections parce que les sanctions américaines qui ne sont pas liées au nucléaire restent. Et d'autre part, les grandes banques européennes traumatisées par cette affaire de BNP Paribas refusent pour l'instant de revenir en Iran. Ce qui fait que le fait que les grandes banques européennes refusent de revenir en Iran, vous imaginez bien, ça freine notamment le retour d'éventuels grands investissements étrangers dont Rouhani a besoin. Mais disons, globalement, moi je veux dire, bon, je suis économiste de formation, l'environnement macroéconomique, comme vous le disiez, c'est quand même beaucoup amélioré depuis que Rouhani a pris le pouvoir. Avant, il y avait une récession de moins 6% en 2012. Bon, on va dire, du fait justement de la reprise des exportations pétrolières iraniennes, et les sanctions étaient levées que depuis début 2016, hein, effectivement, donc ça fait très récent. La croissance devrait atteindre, alors, le gouvernement iranien du 8%, le FMI dit 5%, et l'inflation a ralenti, hein, elle était de 30-40% sous Ahmadinejad, et maintenant elle serait, alors elle est passée en dessous de 10% pour la première fois depuis longtemps, elle serait autour de
7-6%. Ouais,
8-10%, mais disons, c'est pas les 30-45% de Ahmadinejad. Et également le taux de change, qui est très important pour l'économie iranienne, bon maintenant il se déprécie, mais c'est beaucoup plus contrôlé que sous Ahmadinejad où il s'était effondré. Donc le bilan de Rouhani est relativement bon. Le problème, c'est que si vous voulez, moi je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Les attentes des Iraniens étaient gigantesques au moment de l'accord. Donc les gens pensaient, et c'est un peu logique, que tous les problèmes économiques et sociaux du pays allaient être réglés avec la fin des sanctions. Et on voit en plus, une partie des sanctions reste toujours. Hein. Notamment les grandes banques européennes ne reviennent pas en Iran. Et puis un autre problème qui existe, c'est qu'il y a des problèmes économiques et sociaux qui existent en Iran, mais depuis longtemps. Hein. Il y a un taux de chômage qui reste élevé. Alors, on en parlait, mais disons, concrètement, on peut dire que le taux de chômage, officiellement, il est de 11-12%, mais concrètement, il est sans doute plus autour de 16-18%. Et surtout, les jeunes diplômés, hein, il y a beaucoup de jeunes diplômés chaque année en Iran. Il y a au moins 5% de la population iranienne qui fait des études. Vous avez 600 000 nouveaux diplômés si vous ajoutez master et doctorat. Ils trouvent pas de boulot correspondant à leur expertise. Donc, ces gens-là se retrouvent à faire les petits boulots. Et si vous voulez, il y a des inégalités sociales, économiques en Iran. Donc, les adversaires de Rouhani, on va dire, c'est de bonne guerre. Ils disent, regardez, vous promettiez monts et merveilles, la situation économique et sociale est encore très tendue, et chaque famille iranienne a quelqu'un qu'elle connaît, ou de la famille qui est au chômage. Donc, les gens, on a vu ça dans d'autres pays, on leur dit que la situation s'améliore, leur vie quotidienne, c'est pas vraiment ce qu'ils voient. Donc, le débat, pour l'instant, il est là-dessus. Rouhani essaye de dire, mon bilan est bon. Ses adversaires disent, regardez, il y a plein de problèmes en Iran. Ce qu'ils oublient de dire, ses adversaires, c'est que, un, ils sont jamais vraiment préoccupés depuis 20 ans de ces problèmes économiques et sociaux. Ils font semblant de les découvrir. Et c'est pas Rouhani qui est responsable. Et à la limite, comme je vous l'ai dit, les sanctions ont été levées que depuis début 2016. Donc la situation commence à s'améliorer. Et c'est compliqué d'ouvrir une économie comme celle de l'Iran, qui est une économie rentière, dominée par le secteur public, qui a été isolée. Bon, je veux dire, quand Rouhani dit qu'il a besoin d'un deuxième mandat pour continuer sa politique d'ouverture, c'est logique. Donc, je dis pas qu'il faut donner du temps au temps, mais il faut lui donner du temps. Mais voilà, il y a des élections et bon, on va dire c'est de bonne guerre. Mais bon, alors je pense que, moi je suis qu'économiste, mais il me semble que Rouhani essaye de déplacer, comme le disait Azadeh, le débat sur d'autres sujets pour bien faire comprendre aux Iraniens et surtout ceux qui se disent je vais pas aller voter, que lui ou un de ses opposants radicaux, c'est pas la même chose. Mmh. Hein, donc je pense qu'on voit depuis quelques jours qu'il essaye de déplacer le débat sur d'autres sujets que l'économie pour bien rappeler aux gens que c'est important qu'ils aillent voter. Parce que sur l'économie, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes. Hein, mais je pense qu'il a intérêt à déplacer le sujet des débats sur d'autres sujets comme la défense des libertés, comme l'ouverture politique, comme les relations avec l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer sur les relations avec notamment l'Europe et l'Occident si c'est un des ultras qui arrive au pouvoir? Mais je pense qu'il a intérêt. Il a intérêt à parler d'autre chose.
Je rebondis peut-être pour terminer cette première partie d'émission sur l'économie. Ce que disait Thierry Coville, c'est que tout le monde n'a pas intérêt en Iran à l'ouverture du pays aux investissements internationaux. Je pense notamment aux passes d'Aran qui tiennent des pans entiers de l'économie iranienne et dont la concurrence internationale ferait s'effondrer un certain nombre de compagnies Pirazo.
Oui et non. Je pense qu'au contraire, ce qui a changé par rapport aux années précédentes et notamment celle d'Ahmadinejad, c'est qu'aujourd'hui, on voit une sorte de consensus général, y compris chez les passes d'Aran, sur l'ouverture économique. J'étais juste à Téhéran en novembre dernier, et c'est une anecdote, mais on avait en face de nous Mohsen Rezaei, qui est donc l'inoxydable représentant des anciens combattants, donc ancien héros de la guerre Iran-Irak, qui pendant des décennies a soutenu l'autarcie, c'est-à-dire faisait confiance au guide et disait non, vivons heureux, vivons cachés. Et là, le message qu'il donnait à tous les gens qui le regardaient, y compris sur la télévision nationale, c'était « Mes chers compatriotes, ça me fait mal de vous le dire, mais l'Iran doit s'ouvrir au monde. L'Iran doit privilégier l'économie et le tourisme. » Et quand vous avez quelqu'un comme Mohsen Rezaei, si vous voulez, c'est un petit peu comme Ariel Sharon, côté israélien, qui vous dit comme ça « Il faut s'ouvrir à l'économie et au tourisme », c'est quand même que les choses, je pense, ont changé. Et au sein des Pasdaran, la nouvelle garde... Parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a une véritable, il y a un conflit de génération actuellement au sein des gardiens de la Révolution, entre l'ancienne garde, la vieille garde qui a fait la guerre Iran-Irak, qui finalement bénéficie de toutes les prébendes du système, comme le disait très bien Thierry Coville, bah, la jeune garde qui elle se bat actuellement en Irak et en Syrie, qui obtient des victoires... qui est victorieuse, donc qui gagne en légitimité, paradoxalement veut s'ouvrir au monde et à l'économie, pas réformer le système intérieur, mais s'ouvrir au monde économique pour justement projeter l'influence de l'Iran dans ces pays-là sur le thème « Nous versons le sang pour le nationalisme iranien en Syrie et en Irak ». Donc il faut donc que les contrats suivent derrière, sous-entendu, pour rentabiliser le sang versé sur place. Et au passage... pour augmenter l'argent du régime, pour que le régime puisse moderniser ses forces armées et accessoirement nous payer un peu plus.
Thierry Coville.
Un petit bémol, bon, c'est un sujet compliqué. C'est vrai que les Pasdaran, je trouve que j'ai un article qui va sortir là-dessus, ils ont des activités économiques importantes. C'est pas non plus, ils dominent pas l'économie iranienne, on dit un peu n'importe quoi, c'est-à-dire, bon, on sait pas trop, mais bon, la société de construction qui appartient aux Pasdaran, elle a dit, on a 10% chaque année du budget des infrastructures de l'Iran, ce qui est déjà gigantesque. Hein. Ce que je veux dire par là, pourquoi ça pose problème? Je veux bien qu'ils soient favorables à l'ouverture de l'économie iranienne, mais concrètement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Premier problème, les sanctions américaines concernent beaucoup les entreprises liées au Pasdaran. Vous imaginez les entreprises européennes, elles n'ont pas envie de se retrouver dans des secteurs où les Pasdaran ont des intérêts, parce que dans ce cas-là, elles tombent sur le coup des sanctions américaines. Donc ça pose un vrai problème, et d'ailleurs Rouhani, c'est pour ça que le gouvernement iranien et son ministre du pétrole essayent par tous les moyens d'écarter les Pasdaran du secteur du pétrole pour pouvoir attirer les investissements étrangers. Deuxième problème, les Pasdaran quand même, ils posent beaucoup de problèmes au secteur privé iranien parce que ils respectent pas les conditions de la libre concurrence, ils ont des crédits comme ils veulent, ils payent pas d'impôts. Donc le secteur privé iranien qui contrôle 15 à 20% de l'économie, ce qu'il dit à Rouhani depuis qu'il est élu, voulait qu'on se développe nos activités. Comment voulez-vous qu'on développe nos activités si on n'a pas une concurrence saine en face? Donc, moi, je veux bien qu'ils aient un discours comme ça, de façade, en disant, il y a aussi des jeunes générations, ils ont compris que l'Iran doit s'ouvrir économiquement. Je pense que ça va se faire tout seul, il faudra qu'il y ait des choix clairs, et d'ailleurs, à la méthode iranienne, mais Rouhani, il est plutôt quand même en guerre avec les Pasdaran et ceux qui contrôlent l'économie, il essaye de leur faire comprendre que ce serait bien qu'ils diminuent leurs activités économiques. Donc, entre le discours de façade et les réalités économiques, et également les fondations. Hein, Monsieur Raïssi quand même critique Rouhani. Bon, Rouhani vient de lui répondre, c'est quand même assez facile de la part pour Astana et Rhodes, qui paye pas d'impôts, qui fait ce qu'il veut, qui a tous les crédits qu'il veut, de donner des conseils sur comment gérer le système économique national Rouhani. Et d'ailleurs, en partie, un des problèmes de l'économie iranienne, c'est tout ce secteur parapublic avec les fondations et les Pasdaran qui sont pas contrôlés par l'État. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente au moins 20-30% de l'économie iranienne. Donc, si Rouhani veut gagner son pari, je pense qu'il y aura il y aura des véritables choix à faire du côté de c'est quoi ce secteur parapublic, quelles règles ils doivent respecter, est-ce qu'ils sont publics, est-ce qu'ils sont privés, mais qu'on sorte un peu des ambiguïtés actuelles. Hein. Bon, juste, je veux pas trop monopoliser la parole, mais ils ont racheté des entreprises privées et qui gèrent n'importe comment, donc il serait bien qu'il y ait plus de clarté de ce côté-là dans l'économie.
Azadekian, rapidement.
Très rapidement, juste, il faut pas oublier aussi, pour aller dans le sens de Thierry Coville, l'articulation entre ces structures monopolistiques, hein, d'une part, et les questions de répression de la société civile et ce que les Pasdaran ont toujours fait contre effectivement ces sociétés iraniennes qui quand même aspirent à la démocratie. On l'a vu aussi en 2009, et on continue à le voir. Donc, c'est pas seulement économie d'un côté et politique de l'autre, mais vraiment, il faut réfléchir à cette articulation-là et leur rôle néfaste des monopoles, des fondations, y compris des gardiens de la Révolution sur ce plan-là. C'est-à-dire comment ils ont réussi jusque-là à mater, souvent dans le sang, à réprimer les revendications démocratiques de cette société civile iranienne du fait à la fois de la gestion de cette manne pétrolière d'une part, et d'autre part toutes les libertés qu'ils ont pour effectivement agir aussi sur les institutions et sur la société.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Azadeh Kian, Pierre Razou et Thierry Queville dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Iran dans la perspective de l'élection présidentielle du 19 mai prochain. Hassan Rouhani est candidat à sa réélection à la tête du pays. Ses deux principaux adversaires sont le maire de Téhéran, Mohammad Khalibaf, et l'ancien procureur général Ebrahim Raïssi. Nous retrouvons nos invités, Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7 et chercheur associé au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont l'Iran, un mouvement sans révolution aux éditions Michelon. Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de La guerre Iran-Irak aux éditions Perrin, et Thierry Queville, chercheur à l'IRIS, co-éditeur de la Revue internationale des études du développement, dont le dernier numéro est consacré à l'économie politique de la République islamique d'Iran. Quelques mots sur les débats sociétaux qui ont cours aujourd'hui en Iran et comment s'inscrivent-ils dans cette campagne pour l'élection présidentielle, Azadeh Kian?
Déjà, les droits des femmes, je pense, constituent l'un des aspects de ce débat très important, puisque les femmes, la moitié de la population, la moitié de l'électorat, et qui est, rappelons-le, très bien alphabétisée en Iran, et la majorité des 4,5 millions d'étudiants sont des étudiantes, qui, après la fin de leurs études, ne trouvent pas d'emploi ou sur le marché du fait des problèmes, bien sûr, économiques, d'une part, mais d'autre part, l'influence des ultra-conservateurs contre l'activité professionnelle des femmes, puisqu'ils pensent que les femmes sont mères et épouses avant tout, y compris le guide. Hein, c'est un discours qui est revenu, surtout après l'élection de Rouhani en 2013. Et par exemple, le fait qu'on leur dit vous devez 2 enfants par femme ne suffit pas, il faut avoir davantage d'enfants, ça c'est le discours du guide, et on sait que ils essayent donc de ce fait, enfin l'une des implications serait que les femmes iraniennes doivent s'occuper surtout de leurs enfants et de leurs maris, ce qui va à l'encontre des aspirations encore une fois de ces femmes de plus en plus instruites. Donc l'un des débats importants en Iran, c'est aussi, ne l'oublions pas, les droits des femmes qui ont été largement bafoués, à la fois au plan économique, à la fois au plan social ou encore politique. Cette année, 173 femmes se sont portées candidates à la présidentielle de nouveau, et ça dure depuis 97. Aucune n'a été habilitée, alors que parmi elles, il y a quand même des femmes qui auraient pu être habilitées à être candidates à cette élection. Donc il y a toutes ces forces conservatrices qui font tout pour entraver l'ascension politique, sociale, économique ou encore culturelle des Iraniens. Donc l'un des débats les plus importants aujourd'hui en Iran, c'est effectivement le statut des femmes, tout simplement, dans cette société. Donc leur participation fera la différence effectivement, parce qu'on sait que la majorité d'entre elles ont toujours voté pour les réformistes, pour les modérés. On va voir comment elles vont réagir cette fois-ci. Après, vous avez aussi en parallèle des débats menés sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam obscurantiste ou l'islam moderne? L'islam qui serait capable effectivement de répondre aux exigences de cette société moderne. Et donc, l'un des enjeux principaux aujourd'hui, c'est la place de l'islam, et quel islam dans la société iranienne, l'islam des fondations, l'islam conservateur ou l'islam par exemple qui est prôné notamment par Khatami, par Rouhani au niveau politique, ce qui m'emmène à dire effectivement que le bilan de l'islam politique après presque 40 ans de la révolution est un bilan négatif pour cet islam politique, pour l'instrumentalisation de l'islam à des fins politique, mais en même temps et paradoxalement, on constate vraiment la laïcisation de la société iranienne, largement en dépit des institutions et des lois qui sont calquées sur un modèle islamique et qui ne correspondent absolument pas à la réalité de la société iranienne. Raison pour laquelle je pense que parmi les rares sociétés où il y a un décalage de plus en plus grand entre la société et les institutions, ben, l'Iran figure parmi les premiers de ces pays-là. C'est-à-dire, que comment voulez-vous que les femmes qui sont aussi instruites, qui se marient tardivement, qui n'ont que deux enfants et qui aspirent à toutes sortes d'activités, puissent accepter que la valeur de leur vie serait la moitié de la valeur de la vie d'un homme, ou qu'elles n'auraient pas le droit d'être candidates, par exemple, à une élection présidentielle, ou qu'elles seraient au plan du code civil, elles ont un statut vraiment de mineur. Donc, tout ça, c'est-à-dire ces lois, ces institutions sont des lois qui ne correspondent aucunement à la société. Et donc, cette grande tension qu'on constate au sein de la société iranienne, et donc les débats sociétaux qui, effectivement, les concernent, ces tensions-là.
Alors, si on pousse le raisonnement d'Azadekian plus loin, Pierre Razou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'islam politique en Iran est condamné ?
Non, je crois pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à un tournant assez important. C'est-à-dire que l'islam politique, finalement, a permis de sauver, entre guillemets, le régime de la révolution islamique, lui a permis de se consolider. Mais en même temps, notamment lorsque, au début des années 2000 et a fortiori à partir de 2011, il y a eu un antagonisme entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui chacun ont joué la carte de la religion du conflit chiite-sunnite pour masquer en quelque sorte leur rivalité géopolitique. Bah, ça les a amenés quelque part dans le mur. En tout cas, ça fait chiffon rouge pour la communauté internationale. Et l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la société iranienne dans son ensemble, aussi bien les élites que la population, se dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement à promouvoir plutôt un agenda nationaliste, non pas à abandonner la religion, mais disons à mettre en sourdine la religion pour promouvoir sur le devant de la scène le nationalisme persan ou le nationalisme iranien, qui finalement nous permettrait d'apaiser paradoxalement les tensions régionales, parce que finalement dans la région tout le monde comprend le nationalisme, les Turcs, les Arabes, les Irakiens, etc., et surtout les Occidentaux qui ont inventé le nationalisme et pour qui finalement un Iran nationaliste, bah ça leur va beaucoup mieux qu'un Iran cherchant à exporter une révolution islamique urbi et orbi.
Thierry Coville.
C'est très intéressant ce qui se passe en Iran actuellement et je pense que ça résonne beaucoup même en Occident ce qui se passe, parce que les tenants de cet islam politique, comment ils essayent d'attirer les électeurs ? Ils parlent pas d'islam actuellement. Ils nous font du populisme économique. Raliboff qui dit « je vais créer 5 millions d'emplois en un mandat », il dit pas comment. Hein, il dit « je vais multiplier ces fameuses subventions qu'a données Ahmadinejad, vous savez, les versements sur de revenus uniques, etc. Mmh. » Il dit « je vais le multiplier par 3 ». Et les gens du pot, déjà, premièrement, les gens qui... La presse économique en Iran, c'est là qu'on voit la modernisation de la société. Ils disent « premièrement, monsieur Raliboff, c'est quand le Parlement qui doit décider. Deuxièmement, où vous allez trouver l'argent ?» Donc on voit, c'est très intéressant, je veux dire, vous avez un discours de populisme économique et la presse économique iranienne qui reflète cette modernisation de la société iranienne, elle dit, ben oui, mais enfin, ça se passe comme ça, c'est pas en décidant les choses qu'on les fait, quelles réformes, quelles sont vos expertises, etc. Et je pense que derrière ça, ben, il y a ce qu'a dit Azadeh, qu'on arrive à... Alors c'est un peu compliqué en Iran, mais il y a formidable évolution des mentalités qu'a porté Rouhani au pouvoir en 2013. Les gens veulent... Et je crois pas... Bon, je comprends. Je crois que le régime essaye de faire ce qu'il peut, mais la population iranienne, dans son ensemble, veut une ouverture économique, politique, culturelle, très importante. Hein, les radicaux ont fermé, ont interdit tous les concerts, etc. Et donc, ils aspirent à l'ouverture économique, mais on revient. C'est pas simplement qu'une ouverture économique. Moi, j'ai fait une petite enquête sur les entreprises familiales en Iran. On voit que c'est... Ils veulent un pays moderne. Ils veulent des institutions qui protègent les travailleurs, ils veulent des syndicats indépendants, ils veulent un véritable secteur privé, ils veulent arrêter et en finir avec une économie rentière, ils veulent l'état de droit, ils veulent une justice qui marche. Vous voyez, derrière tout ça, il y a aussi une société moderne. Donc le débat, c'est vraiment plus l'islam politique ou pas. Mmh. C'est une société moderne. Et je pense que si Rouhani, c'est ça, à mon avis, son l'enjeu, c'est s'il arrive à faire sentir qu'il veut ça, ben, il arrivera à attirer tous ses électeurs qui... pour l'instant, n'ont pas forcément décidé d'aller voter.
D'où l'importance de Azadekian, très rapidement, pour clore ce chapitre politique. Après ça, on parlera de géopolitique. D'où l'importance du taux de participation. Parce que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ce besoin d'un Iran moderne qui s'exprime, il a aussi besoin de s'exprimer à travers les urnes, avec cette interrogation que vous évoquiez en début d'émission quant à la fraude.
Tout à fait, mais écoutez, moi je pense qu'avant ces trois allocutions récentes de Rouhani, là où vraiment il s'est mué en défenseur des droits individuels et collectifs, etc., beaucoup de jeunes Iraniens ne disaient être déçus de Rouhani et ne voulaient pas aller voter. Mais de nouveau, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, on va voter pour lui, parce que effectivement, pour barrer la route, effectivement, aux ultra-conservateurs, parce que Rouhani, c'est l'ouverture vers le monde, c'est aussi une amélioration de statut des femmes. Il ne faut pas oublier que pendant l'une de ses allocutions, il a dit que contrairement à l'époque d'Ahmadinejad, où effectivement les femmes avaient été écartées du secteur économique, j'ai créé 750 000 emplois pour les femmes. Bon, ce qui est encore très insuffisant pour ces femmes de plus en plus diplômées, mais il montre quand même ça, cette volonté, cette ouverture, contrairement aux conservateurs qui, encore une fois, veulent emprisonner les femmes. Par exemple, il a fait des pas très positifs vers les minorités religieuses et minorités ethniques en Iran, ce qui lui a valu aussi la participation importante de ces minorités à son élection en 2013. La question est de savoir si elles vont de nouveau se mobiliser. Donc effectivement, je pense que le bilan de Rouhani sur les questions relatives aux minorités ethniques religieuses, sur par exemple des petits pas qu'il a essayé de faire, même symboliques envers les femmes, feront que ces minorités-là, s'ils votent, ils voteront de toute façon pour Rouhani. Maintenant, la question, encore une fois, est de savoir si Rouhani arrive à continuer, puisque après l'appel à l'ordre du guide, est-ce que Rouhani va continuer à accuser ses détracteurs de vouloir saper toute liberté, ou est-ce qu'il va continuer à les critiquer pour obtenir le vote de cet électorat contestataire?
En tout cas, on verra donc le résultat, l'élection fixée au 19 mai prochain. Géopolitique. L'élection présidentielle iranienne, elle se déroule dans un contexte régional tendu, marqué par l'élection récente de Donald Trump, l'activisme offensif de la Russie au Moyen-Orient, le rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le regain d'ambition régionale de la Turquie et la persistance d'une rivalité exacerbée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et hasard du calendrier, entre guillemets, le 19 mai, date de l'élection présidentielle iranienne. Et c'est aussi la date de l'arrivée de Donald Trump en Arabie Saoudite pour un sommet réunissant les pays sunnites de la région. Pierre Razou.
Oui, je crois que l'Iran, en fait, véhicule l'image qu'il est assiégé. Bon, ça, c'est le truisme classique. Mais je crois surtout qu'en fait, ce qui gêne les Iraniens, c'est qu'ils s'aperçoivent que les Russes et les Américains sont en train de s'entendre sur deux zones de partage d'influence au Moyen-Orient. Au nord, on va dire une zone avec un partenariat russe et iranien pour finalement s'occuper de l'Irak et de la Syrie. Et au sud, une sorte de grande alliance classique entre les États-Unis, Israël et les monarchies du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite. Et donc Trump, la visite de Trump s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Le problème des Iraniens, c'est que d'un côté, ce partage leur va bien, parce que finalement, ça couvre à peu près leur zone d'influence traditionnelle, mais en même temps, ça ne leur va pas du tout, parce qu'en fait, ils gardent sur ces deux plaques tectoniques qui se frictionnent, ils gardent des sujets de contentieux avec l'Arabie Saoudite notamment, que ça soit au Liban, que ça soit en Irak, en Syrie, au Koweït, à Bahreïn, voire au Yémen. Donc, on a l'impression d'avoir les Iraniens finalement coincés finalement au sud, par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et quelque part au nord par une sorte de nouvelle alliance entre la Russie et la Turquie. Et dans ce jeu compliqué, ils essayent de tirer leur épingle du jeu et de montrer à tout le monde qu'ils sont là. Et donc, en effet, ça pourrait avoir un impact sur l'élection présidentielle, parce que si elle a bien lieu en deux tours, comme on a le deuxième tour se passera après le mois de Ramadan, ça laisse un certain temps. Et le régime pourrait être tenté justement de vouloir véhiculer en fait une image un peu de fermeté de l'Iran si la situation se dégrade dans la région.
Azadekian, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre Razou? Et ensuite, j'ai une question sur la relation entre Téhéran et Washington, avec les défis que pose Donald Trump. Est-ce que l'Iran entre dans une nouvelle ère de confrontation avec les États-Unis? Est-ce qu'il y a risque d'escalade?
le risque d'escalade, je ne le pense pas, mais il est vrai que la tension principale, on le sait, c'est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans la région. Je ne suis pas sûre que les Iraniens sont en train de perdre la main sur le dossier syrien ou irakien, c'est tout le contraire qu'on constate. Et d'ailleurs, c'est la Turquie qui a été, disons, repêchée par la Russie et qui désormais fait partie de cette, entre guillemets, alliance Russie-Turquie-Iran pour trouver une solution à la crise syrienne. Les Iraniens sont très bien placés aussi en Irak. D'ailleurs, on constate que la politique étrangère de l'Iran, ce qui concerne le Liban, l'Irak et la Syrie, est largement d'ailleurs décidée par les gardiens de la révolution, la planche extérieure. On sait que l'ambassadeur iranien en Irak, qui vient d'être nommé récemment, est le bras droit de chef des gardiens de la révolution, branche extérieure. Donc, tout ça montre quand même que les Iraniens ne sont pas du tout prêts à abandonner ces sites importants et que l'Arabie Saoudite finalement est le vaincu de ces conflits, raison pour laquelle ils continuent à faire appel quand même aux États-Unis et au régime arabe de la région afin de les soutenir. L'intervention saoudienne et arabe de la région au Yémen s'est vouée quand même à l'échec. Ce sont des civils qui sont en train d'être bombardés par cette alliance dirigée par l'Arabie Saoudite. Mais d'autre part, ça dépendra de qui sera réélu en Iran. C'est-à-dire que si c'est Rouhani, je pense que sa politique, comme il a déjà annoncé à maintes reprises, c'est d'aller vers, non pas l'aggravation des tensions, mais une certaine normalisation avec les pays de la région, à commencer par l'Arabie Saoudite. Il a fait déjà beaucoup de pas vers l'Arabie Saoudite. Ce sont les Saoudiens qui, peut-être du fait aussi des conflits intérieurs à ce pays, effectivement, ont tout intérêt à avoir un ennemi qui est l'Iran. Il y a aussi ça, il ne faut jamais oublier l'importance des ennemis extérieurs pour un certain nombre de régimes, y compris les régimes iraniens, le régime surtout saoudien. Qu'a fait l'Iran contre l'Arabie Saoudite, contre l'intégrité territoriale de l'Arabie Saoudite, etc. Pas grand-chose, pour ne pas dire rien, alors que les Saoudiens menacent tous les jours l'Iran et personne ne réagit à l'échelle internationale. Donc il y a un déséquilibre aussi sur ce plan-là qui porte l'eau au moulin de nationalisme iranien.
Donc une politique de poids de mesure, Pierre Razou.
Oui, très rapidement. Tout à fait. Et je crois que justement, pour rebondir sur la question sur Donald Trump et de sa présence, je crois que sa présence, elle est beaucoup plus là pour rassurer les Saoudiens que pour provoquer les Iraniens. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Azadekian. Et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump est un businessman et qu'en ce moment, les États-Unis sont engagés dans de très gros contrats d'armement défensif avec les pays de la région. Ils viennent de vendre des systèmes antimissiles, pas offensifs, mais défensifs, antimissiles aux Émirats Arabes Unis. Et ils sont clairement en train de négocier la même chose avec l'Arabie Saoudite. Et leur vocation à terme, c'est finalement de construire une sorte de grand bouclier antimissile au sud de l'Iran pour protéger les monarchies du Golfe, qui n'a pas de vocation offensive, donc qui n'affole pas en quelque sorte les Iraniens, mais surtout qui permet aux États-Unis de gagner beaucoup d'argent. Parce que Donald Trump, avant tout, c'est un homme d'affaires. Et je pense que ce qu'il veut faire avec tout le monde, finalement, aussi bien avec les Saoudiens qu'avec les Iraniens, c'est faire des deals gagnant-gagnant pour gagner beaucoup d'argent pour les États-Unis.
Thierry Queville, en guise de conclusion, finalement.
Oui, je suis frappé, pour revenir à ce que je disais avant, mais sur ce discours d'une pseudo-guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, d'une fameuse guerre qui existerait depuis des centaines d'années entre les sunnites et les chiites, d'un Iran diabolique qui veut étendre sa présence en Iran. À quel point ça sert les intérêts des... je suis pas contre l'industrie d'armement, mais enfin, vous avez un ennemi, attention, on va vous vendre des missiles anti-aériens aux Émirats. Ça permet d'adhérer, regardez, on va pas ouvrir parce qu'on a un ennemi qui nous veut du mal. Regarde, Netanyahou, tous les jours, et maintenant, il va même rechercher dans l'Iran pré-islamique, ils ont toujours voulu du mal à la planète en entière. Donc, à quel point ça sert les intérêts, des intérêts peu avouables dans la région, cette diabolisation de l'Iran. Et c'est également, de manière assez perverse, ça renforce les radicaux en Iran. Hein, parce que je veux dire, il est très clair que la meilleure façon qu'a trouvé Trump pour mettre en danger quelque part les modérés en Iran, c'est de pas de rester toujours avec ces sanctions américaines, de diaboliser l'Iran, de tout de suite, je veux dire, la réponse des radicaux, c'est de dire regardez tout ce que vous avez fait, comme vous avez été trop gentil avec les États-Unis, ils vous répondent pas, votre politique ne marche pas. Donc, je pense que derrière ce discours de guerre froide et de diabolisation de l'Iran, je pense qu'il y a pas mal d'intérêts en jeu peu avouables. Et alors là, il serait bon que l'Europe, dont on n'a pas parlé, change l'axe du discours. S'il y a autre chose à faire avec l'Iran.
Alors, de l'influence indirecte des États-Unis dans l'élection iranienne, d'une certaine manière, et appel pour une influence peut-être plus forte de l'Europe. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur associé au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont l'Iran, un mouvement sans révolution aux éditions Michelon. Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de La guerre Iran-Irak paru chez Perrin, et Thierry Queville, chercheur à l'IRIS et co-éditeur de la Revue internationale des études du développement, dont le dernier numéro est précisément consacré à l'économie politique de la République islamique d'Iran. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Julien Magoarou.